Claudia Tagbo, je vous demande pas si ça va, parce qu'on a l'impression que vous allez toujours bien.
Oui, 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 je veux. Je me dis, à partir du moment où on a la chance de se réveiller le matin, il faut se dire ça.
Parce qu'on a l'impression que vous faites jamais la gueule, parce que quand même, il pleut depuis trois jours, l'essence devient un produit de luxe. C'est une politesse d'être toujours de bonne humeur, Claudia Tagbo?
Ben, l'essence, déjà, ça me concerne pas, parce que moi, c'est le métro et je marche beaucoup. Voilà.
Puis
je
Mais me dans dis, le métro, on vous reconnaît, non?
Oh non, c'est toute une question d'attitude. Dans
bah avec ses lunettes, c'est quoi?
Déjà, c'est pas avec ces lunettes-là. Je change de lunettes.
Ah oui, parce que ça, c'est des lunettes très jolies, mais un peu voyantes.
Elles sont voyantes, donc je change de lunettes, voilà. Et puis les gens, vous savez, ils ont plein d'autres choses à penser. Hein, ils s'occupent de leur vie, donc ils sont pas là spécialement pour voir qui s'assoit à côté d'eux.
C'est une politesse d'être toujours de bonne humeur. Parce que moi, par exemple, je suis souvent de mauvaise humeur, mais j'ai la politesse de pas le montrer.
Si je fais la même chose que vous en fait, parce que je pense que si on demande à mon chat ou à Doudou, et je pense qu'il dirait ah ouais, ben venez la voir le matin alors.
Vous croyez que vous ne le montrez pas, mais vous dissimulez mal, Anne.
Comment alors, chaque fois qu'on vous voit, que ce soit à la télé, chez Arthur ou sur scène, Claudia Tagbo, tout le monde parle de votre énergie débordante. En fait, vous êtes un modèle hybride, vous rechargez en marchant, en bougeant, en jouant.
Oui, ça. Je sais que des fois, ça peut énerver. J'ai déjà eu des gens, ouais, mais t'as trop d'énergie, tu parles, tu fatigues. Et non, je suis comme ça depuis toute petite, je ne triche pas, en fait. Je suis vraiment comme ça. Alors, effectivement, je suis un peu éteinte quand je vais chercher mon pain et tout, parce qu'il faut être poli dans la queue et tout. Mais sinon, oui, je me recharge. Oui, je me recharge.
Si ça se trouve, Claudia Tagbo, c'est vous l'alternative au nucléaire alors que vous êtes déjà une bombe atomique.
C'est ça. Ah, wow, c'est joli.
Elle te doit de l'argent.
Non, j'ai payé avant. J'ai payé avant de venir. Je fais des virements chaque mois.
Non, mais cette générosité, cette vitalité que le Tagbo, c'est naturel? Vous prenez des trucs ou quoi?
Je prends rien. Je prends là, en ce moment, j'ai des tisanes de thym avec du gingembre le matin. C'est très bien, ça nettoie. Et du miel.
Pour nettoyer quoi? Les toxines, les graisses?
Voilà. Non, pas les graisses, parce que je pense qu'il faudrait que j'en boive beaucoup plus. Mais bon. Alors après, c'est vrai que je me dis que c'est peut-être plus facile de faire la gueule. Non.
Ouais. En ce moment, elle te demande à toi.
Mais, voilà, je me dis, je suis une militante de la bonne humeur. J'ai envie de dire ça. Voilà, je vais peut-être monter un parti.
Claudia Tagbo, alors
ça serait bizarre, excusez-moi, ça serait bizarre quand même si elle faisait un parti, parce qu'une manif avec des gens qui on est content, on est content. Oh, c'est rare.
Non, c'est pas spécialement on est content. On peut dire qu'on n'est pas content, mais avec le sourire. On va arriver, et les gens ouvrent la porte. Ils se disent, ils sourient, ils sont gentils. Et une fois qu'on est dedans,
Alors que Claudia Tagbo, vous êtes née en Côte d'Ivoire à Abidjan, et c'est qu'à l'âge de 13 ans que vous découvrez la France, et pas n'importe où, hein. Vous
parlez en Lozère. En Lozère. Chanac.
Ouais.
Ça va. Je vous embrasse. Chanac.
Ça sent le bon souvenir.
Mais pourquoi votre père est, comme ça, est passé d'Abidjan en Lozère? C'est
l'amour. Il était amoureux.
Amoureux
de la Lozère, amoureux de la Lozéroise qui nous a accueillis. Voilà. Voilà, sa chérie.
Ah, parce qu'il était. Ah, il était.
Ben oui, il est amoureux.
Vos parents étaient déjà divorcés.
C'est divorcé, donc c'est l'amour.
Mais il l'a rencontré où, la Lozéroise à Abidjan?
Ah, ça, il faut demander au paternel, hein. Et j'ai envie de dire, et si j'ouvre ma bouche sur Europe 1, je crois que je peux changer de nom tout de suite.
J'imagine la fille. Ouais, non, mon père était sur Tinder.
Voilà.
Et Claudia, vous êtes heureuse actuellement en amour?
Ah oui, très bien. Mon chat me gâte. Oui, oui, j'ai un amoureux, tout va bien.
Depuis longtemps maintenant?
On va sur la quatrième année, oui.
Oh là là.
Parce qu'après le premier quinquennat, faut penser réélection.
Ouais. Nous, on fait des contrats, nous, à durée déterminée. Chaque
qu'on
mois.
Renouvelle. Et vous jouez surtout dans le film de Philippe de Chauvron, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?
Tout à fait.
Qui va sortir le 19 janvier.
C'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé quand il vous a appelé, Philippe de Chauvron, vous étiez?
Ben oui, t'es sûr? Il m'a dit oui, c'est ça, je vais te proposer ça. Je dis ben oui, viens. Et puis après, arrivé sur le plateau, accueilli par toutes les filles, par tout le monde. Non, c'était cool. Ouais, j'ai passé un bon moment. Alors, mais je rassure tout le monde, le film tourne pas que sur moi. Hein. Je prends cher parce que je suis sur l'affiche. Mais en fait, je me suis rajoutée.
Et là, ça vous fait passer un cap, Claudia Tagbo, là.
Un cap où?
Un cap dans les actrices bankable.
Ah bon?
Oh, ça fait longtemps qu'elle l'est, bankable.
Actrice bankable, ça veut dire quoi, bankable, en fait? C'est quand on te confie des...
Non, c'est quand on t'appelle pour te proposer des films.
Ouais. D'accord. Ben, alors, continuez d'appeler. J'ai même envie de dire commencez.
Alors, quand vous étiez petite, vous avez beaucoup fait de l'athlétisme.
Oui.
Le lancer de poids.
Oui.
Pourquoi le lancer de poids? Vous aviez perdu un pari ou quoi? Parce que le lancer de poids, c'est comme la pétanque, mais sans visée, en fait.
Oui, c'est ça. C'est pas ça. Sans visée. Il n'y a pas de cochonou au bout. Éventuellement, tu peux viser sur les gens qui vont mesurer.
Mais voilà. Personne ne choisit le lancer de poids de son plein gré, Claudia Tagbo. C'est vos parents qui vous ont forcé ou
non? Non, ils m'ont pas forcé. Enfin, moi, j'ai commencé par faire de l'athlétisme de la course à pied. Et je me suis fait un petit claquage, pas bien soigné et tout. Et comme je faisais un peu de compète et tout. Et je revois très bien le coach en train de dire « Bon, ben, écoute, je sais pas, tu peux pas courir, tu peux pas faire le relais. On a personne au lancer. » Voilà ce qu'il dit, au lancer. Donc je regarde, je fais « Et alors ?» Et il me fait « Ben, c'est quoi ?» Il fait « Lancer de poids ?» De disque, javelot,
non,
et marteau. Et je le regarde et je fais, ben, je vais faire lancer de poids parce que je me suis dit avec la force. Et en fait, tu te rends compte qu'après, c'est très technique.
Est-ce que ça sert le lancer de poids maintenant dans la vie, par exemple, pour vous débarrasser des boulets ou...
Non, il y a d'autres techniques. J'ai pas besoin de. Voilà, il y a d'autres techniques.
C'est quoi vos techniques?
Moi, ben, je souris pas.
Déjà que quand t'as souri tu flippes, alors
je souris pas du tout quand j'ai pas envie, quand on m'embête en fait.
Et voilà. Le lancer de poids, ça peut servir pour les courses au supermarché, pour lancer un pack d'eau dans le caddie. Ouais.
Bien joué, mais je sais pas si les packs d'eau tiennent parce que il y a une telle force, là ça se déchire. Mais je dis à tous les enfants, il y a dans tous les sports, il faut y aller avec le cœur. Moi j'y suis allée. C'est vrai qu'au début, bon ben même ton propre père il filme les courses des autres. Et toi, il dit, ah, ça c'était bien.
Claudia Tagbo, vous avez passé un bac de comptabilité.
C'est ça.
Et la comptabilité, c'est pas la voie naturelle vers l'humour. On vous imagine pas en train de manier des chiffres, des bilans comptables.
Moi non plus, j'imaginais pas.
Alors après, vous débarquez à Paris et là, vous vous faites jeter de tous les castings. Trop forte, trop noire, trop bruyante, trop généreuse.
j'aime beaucoup le trop bruyante. Non, en fait, j'ai eu un directeur de casting, j'adore le trop bruyante. Trop. Elle a pris tous les mots qui passaient.
Mais on vous a quand même découragé. Et c'est quand vous êtes du théâtre, un peu du théâtre très sérieux aussi pendant longtemps.
Oui.
Et à un moment, vous vous retrouvez à coacher des
humoristes.
Des humoristes. Voilà. Et c'est là que vous rencontrez Jamel.
Ouais,
et lui, il vous repère tout de suite.
Ben, c'est, en fait, je venais pour le Comic Street Show. Il y a Tongjie Bakantongjie qui m'avait appelé pour dire, écoute, il y a plein d'artistes qui font de l'humour et tout, mais et là il me dit oui, il nous manque des filles, mais il y a pas de filles. Il me dit oui, il nous manque des filles et tout, mais les filles elles osent pas trop. Et donc du coup, et c'est parti comme ça de fil en aiguille. Après on se retrouve à faire des premières parties de Madame Anormalas.
Mais
tu m'as fait faire mon premier prime, c'est Anne. Elle m'appelle, elle me dit oui, bonjour, c'est Anne Romanoff à la télé. Et moi, Anne Romanoff, je vous appelle parce que j'ai une émission, voilà, j'invite des humoristes et tout. Claudia, dans mon cœur, hein, ça fait, dans mon corps, ça fait waouh. Au téléphone, ça fait oui. Ouais. Quoi? D'accord. 8 minutes. Ah ben, 8 minutes, c'est très court parce que moi, je fais 10-12, quoi. C'est la meuf qui prend les gens de haut. Ouais, 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 parce que donc. Et là, Anne, elle raccroche, je sais pas comment elle a vécu le truc, mais moi, je raccroche, je fais waouh. Et après, je la rencontre, elle me dit, tu m'as prise d'eau. Je me dis, c'est qui cette petite merdeuse? Je fais, non, j'étais juste très contente. Et quand je suis contente, je savais pas comment exprimer le truc. Donc, je travaille. Et du coup, voilà, premier prime avec Anne Romanoff et depuis porte-bonheur, quoi.
Ah,
voilà.
Ouais.
Non, mais vraiment. Vraiment.
Vous avez participé aussi à l'Afrique, à un incroyable talent comme jury.
Oui, alors ça c'est une expérience formidable. J'ai découvert énormément d'artistes et avec rien. Et j'ai pris des grosses gifles parce que il y a tellement une telle créativité. Et que je trouve que c'était bien cette émission d'avoir mis en lumière comme ça plein de jeunes.
Cette émission a dû vous faire connaître sur le continent.
Ah ouais, on me donne plus l'appareil pour prendre les photos. Parce que je peux vous garantir que la première année où je suis arrivée, il y a des tontons, on les appelle ceux qui sont plus âgés. Eh ma petite, prends la photo avec Angélique Idiot là. Ah vraiment. Et tu fais, mais moi aussi je fais partie du jury en fait, non.
Michael Quiroga a des choses à vous dire, Claudia Tagbo.
Oui, j'ai peur.
Non, faut
parce
pas.
Que lui aussi, il sourit beaucoup et il peut tacler.
Non, jamais. Alors, franchement, ça se saurait. Hein. Donc, Claudia, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous voir, bien sûr. Et un petit peu inquiet quand même, parce que bon, quand on reçoit une personne de la gente féminine, vous savez, quand on est chroniqueur, il est de bon ton de jouer un peu la séduction. Mm-hmm. Mais vous, Claudia, vous êtes le genre qui peut faire peur. Je le cache pas. Non, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Claudia Tagbo, elle peut lever le ton quand il faut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait surtout ce qu'elle veut pas. Elle se laisse pas faire. Elle a un vrai caractère, des ambitions. C'est vrai, vous êtes un modèle pour beaucoup de femmes. Comme pour Andrew Manoff, par exemple.
Ah bon?
Je vous promets, il y a quelques années, dans un sketch, je vous souvenez, où elle vous a demandé de lui apprendre la danse africaine. Et alors là, Anne qui apprend la danse africaine, quand on regarde la vidéo, on voit bien que son corps avait pas prévu ça. Non, franchement, à voir, c'est un peu comme quand quelqu'un se cogne la tête dans un poteau, vous voyez. Non, on a de la peine pour lui, on sait que ça fait mal, mais on rigole quand même, tu vois.
Mais non.
Alors, Claudia, vous êtes arrivée en France avec vos parents, hein, qui se sont battus, pas entre eux, mais ils se sont battus pour arriver, voilà.
Tout à fait.
Un papa expert comptable qui a pas mal galéré, parce qu'il faut dire que la comptabilité, c'est un métier particulier. Ça ne se pratique pas partout de la même façon. Vous voyez, par exemple, à Paris, 2 et 2 font 4, alors que chez Balkany, à Levallois, ça peut faire 5 ou 3.
Où elle est.
Ça peut faire 5 ou 3. Et en Afrique, ben, ça dépend du président. Alors, on peut aussi se demander, mais qui se cache derrière Claudia Tagbo? Parce que vous savez, on a coutume de dire que derrière un grand homme, il y a toujours une femme, mais on dit jamais l'inverse, quoi. Mais c'est vrai que bon, vu la mentalité des hommes aujourd'hui, derrière une grande femme, le plus souvent, il y a un petit mec qui lui mate les fesses. Mais non, derrière Claudia, il n'y a personne. Elle tient debout toute seule. Claudia Tagbo, dans votre spectacle Le Qui, vous parlez entre autres des frais que vous avez engagés pour, comme vous le dites, pouvoir mettre le paquet. Alors attention, parce que les abus de la chirurgie, tout ça, on en a vu sur beaucoup de people. Non, c'est vrai, ils sont tellement tirés la peau, ils se retrouvent avec le nombril derrière et les narines sous les aisselles. Donc, c'est pas bon du tout.
Drôle d'image.
Ouais,
je vous laisse le temps de la visualiser. De toute façon, voilà, on voit quand un people a abusé de la chirurgie, parce que c'est quand, tu sais, les sosies de la star, ils ressemblent plus à la star que la star elle-même. Quoi. Ça arrive. Dédicace à Johnny. Alors, Claudia, on sait que la musique et la danse sont très très importants pour vous. Ça vous aide à évacuer vos soucis. Vous avez même dit, quand j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, mes parents me demandent, est-ce que tu as dansé? Voilà. C'est ce qui me donne l'occasion de corriger une petite erreur, hein, parce que depuis des siècles, les blancs pensent que les noirs aiment danser. En fait, non, on a juste eu beaucoup de problèmes pendant longtemps. Alors, pour en revenir à vous, Claudia, hein, c'est vrai qu'on est beaucoup à vous trouver impressionnante. C'est le regard, la démarche, la voix aussi, hein, qui peuvent faire flipper. Vous pouvez être à la fois douce, puis la seconde suivante agressive. Vous voyez, l'image qui me vient spontanément, c'est un Doberman en pyjama pilou.
Un Doberman, mais dis donc.
Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que vous faites le job. Hein. Dans une interview, vous avez dit, j'ai envie de me faire du bien et d'en donner aux gens. Alors je précise, hein, ça ne veut pas dire que dans la salle, elle a installé des tireuses à bière pour les mecs et des fauteuils vibrants pour les filles. Non, non, ça veut dire qu'elle est généreuse, qu'elle se donne complètement lorsqu'elle est sur scène. Alors vous êtes plutôt philosophe face à l'adversité. Hein. Vous êtes le genre qui voit le verre à moitié plein. Vous dites que vous vous endormez en souriant. C'est quoi votre truc? Vous êtes exonéré d'impôts? Vous êtes le Joker? Bon, en tout cas, moi j'ai constaté que c'était très communicatif. Vous êtes comme votre rire, en fait, puissante et généreuse, une vraie parenthèse feel good. Et pour le moment, Claudia Tagbo, on apprécie l'instant et on est lucky de vous avoir parmi nous.
Ah, oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Miguel. Merci beaucoup.
Léa Landau a des questions à vous poser, Claudia.
Oui,
Tagbo.
Oui, elle me fait peur. Méfie-toi, je sais où tu habites.
Non, moi je trouve que votre filmographie grandit autant que mon désir à rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire vite, très très vite. Mais oui, alors que plutôt que de vous poser des questions classiques, j'ai décidé d'aller voir tous ceux avec qui vous avez partagé l'affiche ces 7 dernières années pour qu'ils parlent de vous. Alors c'est ce que j'ai appelé l'interview partenaires particuliers qui vont donc parler de leur partenaire particulière, vous, Claudia Tagbo. Alors, dans Les Seigneurs, par exemple, vous avez partagé avec l'affiche avec Omar Sy, qui nous dit ce que votre père vous a répondu quand vous lui avez dit « Papa, je veux faire de la scène ».
Médecin, c'est un bon plan.
Voilà. Donc, il voulait que vous soyez humoriste ou pas, votre père?
Non, il voulait juste que je sois heureuse. Et au départ, il me voyait plutôt avocate.
Avocate.
Avocat, parce qu'il disait « Avec la tchatche que t'as, ils vont libérer tous tes gars ».
C'est
pas faux, non?
Ouais. Alors, pareil, j'ai dit à Omar, il dit quoi son père quand Claudia Tagbo lui présente un fiancé?
Qui est ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait?
Ouais, c'est vrai. Et Omar, vous ne lui avez donc rien dit de votre petite aventure à son papa?
Ça rend notre histoire encore plus belle.
Ouais, t'as raison, je comprends. Alors après, il y a eu Amour sur place ou Emporté, avec Noum Diawara. Noum, quand il parle de vous, c'est quelque chose. Noum, c'est quoi Claudia Tagbo pour vous?
C'est une petite adrénaline, une petite drogue en fait.
Oh, c'est mignon.
Vous diriez que vous êtes une drogue dure ou une drogue douce, Claudia Tagou?
J'ai envie de dire une drogue douce, mais qui dure longtemps dans le corps.
C'est comme du sucre en fait.
Donc à prendre à petite dose, mais voilà, on est présent.
Alors Noum Diawara, le souvenir de vos débuts au Jamel Comedy Club aussi avec Claudia Tagbo?
On s'engrenait, on s'entraînait à être les meilleurs quoi.
D'accord, et qui est le plus drôle alors entre Claudia Tagbo et vous, Noum Diawara?
Je pense que c'est moi, je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi.
C'est faux, bien sûr.
Non, c'est... il est bon.
Il joue en ce moment d'ailleurs. Ouais. Alors, ensuite, il y a eu le film Bon Rétablissement avec Gérard Lanvin. Mm-hmm. Gérard Lanvin, quel genre de partenaire est Claudia Tagbo?
Quand vous jouez la scène, vous l'entendez rien.
Donc, à votre avis, Gérard Lanvin, pourquoi Claudia Tagbo rit autant?
Elle va pas bien.
Pas aujourd'hui. En plus, c'est marrant, c'est découpage. Enfin, si, il pourrait vraiment dire ça.
Rire, c'est une carapace, Claudia Tagbo.
Aussi, ça m'a beaucoup servi à passer plein de trucs un peu difficiles. Mais oui, le rire, c'est le premier truc. Même quand on m'attaque, c'est... Il est sérieux, lui.
D'abord le rire. Alors, ensuite, il y a eu Super Chondriaque avec Cadmerade. Alors, Cadmerade, j'ai ouï dire que vous vous êtes bien entendu dans le boulot avec Claudia Tagbo, mais dans la vie de tous les jours.
Dans le quotidien, ça reste encore difficile.
Ah, okay. Donc ça vous arrive de ne pas vous entendre avec un partenaire de jeu, Claudia Tagbo, ou pas?
Ça me fait arriver, surtout que sur ce truc Super Chondriaque, j'aime bien parce que il y a Danny Boone qui m'a appelé mais de loin, là où il habite, enfin Los Angeles,
Los Angeles
pour me dire allô, je suis vraiment désolée, t'inquiète pas, tu seras sur le DVD, mais je t'ai coupé. Il m'expliquait tout. Non, c'est très bien passé. C'est bien de jouer avec des personnalités comme ça.
Ah, il vous a coupé au montage?
Oui, il a coupé au montage, ouais. Donc le film, vous m'avez en générique, mais vous allez sur le DVD, mais vous m'avez pas.
Ça, c'est une déception quand même.
Oui, parce que moi, j'étais déçue. Après, j'ai trouvé ça très classe que le gars t'appelle avant que le film sorte. Tu disais que j'ai coupé. Ouais. Je trouve ça très, très classe. Ouais, parce que ça m'est déjà arrivé qu'on m'ait coupé hein, sur d'autres projets. Mais
ce qui, il faut préciser au jeu.
Première, tu mets une robe.
Non, il faut préciser que les scènes coupées n'ont rien à voir avec le talent et tout. C'est pour parfois pour le film, ça sert pas.
Pour la durée des fois. Ouais.
Alors, il y a eu aussi la comédie C'est quoi cette famille avec notamment Lucien Jean-Baptiste. Lucien, comment on parvient à exister dans ce monde de comédiens?
Eh bien, il faut être noir, mais il faut pas avoir un accent antillais, il faut pas avoir un accent africain, parce que ça marche pas.
C'est vrai, ça.
J'ai envie de dire, il faut avoir son accent, son propre accent. Après, moi, forcément, il y aura mes intonations restent, et je vais pas mentir, hein, c'est inscrit sur moi que je viens de d'origine africaine. Mais il faut pas me prendre parce que j'ai l'accent, il faut pas me prendre. Là, il y a des projets qui arrivent où vraiment je...
Rien à voir.
Ça vient. Ouais, ça vient.
Oui, qu'elle essaie de maîtriser son accent de la Lozère parce que c'est handicapant.
C'est handicapant des fois, je t'assure.
Je comprends.
Enfin, Claudia Tagbo, vous voilà à l'affiche du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, avec notamment Mehdi Sadoun. Alors, le tournage Mehdi Sadoun?
Alors, moi, j'étais pas là.
D'accord. Quel menteur. Un mot sur Claudia Tagbo, Mehdi Sadoun?
C'est une personne qui est simple, qui est honnête, qui est généreuse.
Eh ouais, ça, c'est vrai. Et en vrai, Mehdi Sadoun, un truc qu'on aurait tous envie de dire à Claudia Tagbo pour finir.
Je t'aime.
Ah. Merci. On vous aime, Claudia.
Merci, moi aussi, je vous aime. Moi aussi.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Claudia Tagbo, dans les années qui viennent? Qu'est-ce que vous aimeriez s'il y avait une fée qui venait?
Mais il y a une fée qui vient, celle qui est derrière le micro, qu'elle continue d'avoir des émissions pour nous inviter, qui font du bien à tout le monde. Non, mais c'est vrai qu'ils font du bien à tout le monde. Non, et que cette fée-là continue de...
Non, mais sérieusement, s'il y a dans votre vie professionnelle, ou qu'est-ce qui vous plairait?
Dans ma vie professionnelle, c'est de continuer à faire ce métier parce que c'est un rêve. Donc, du coup, je le vis avec beaucoup de, un peu de distance en disant c'est un rêve, déjà, c'est pas mal. Voilà, tu as fait quelque chose. Et puis de me dire, me souhaiter la santé. Et le reste, ça va suivre. Voilà.
Nous avons le plaisir de recevoir le fils caché de Fernand Braudel, de Léo Mallet, le cousin par alliance d'Alain Decaux, un admirateur de Michel Platini, de Jean-Paul Belmondo, un Français de sang mêlé, un acteur, un comédien, un fan de foot. Mais ce midi, c'est surtout le conteur que nous recevons à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage romanesque, La folle aventure de la langue française. Notre invité est Laurent Deutsch. Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour à tous.
Alors après les passionnants Métronomes 1 et 2 qui s'intéressaient à Paris et à ses secrets, vous vous êtes penché cette fois sur la langue française. C'est un vaste programme quand même. La langue française, vous dites que c'est une jeune fille capricieuse et mutante dans laquelle on trouve du latin, du sel, de l'arabe, du breton, de l'occitan, de l'anglais, du verlan, des fautes d'orthographe.
Oui. Et surtout, ils s'y trouvent nos ancêtres. Quand vous parlez cette langue de France qui nous permet de nous comprendre les uns et les autres, eh bien nous convoquons un ancêtre. Les mots ne sont pas sans relief, ils ne sont pas passifs. Ils ont une histoire, ils ont un message à nous dire pour peu qu'on veuille bien y prêter l'oreille.
Mais pourquoi vous prenez une voix comme ça?
Parce que j'essaie d'inviter les trucs à un truc un peu épique, quoi, parce que c'est un grand voyage. C'est pour ça que ça s'appelle romanesque. C'est un grand roman d'aventure, la langue française. Et surtout, ça permet de nous rappeler ceux qui nous ont précédés. La France, c'est peut-être 70 millions d'habitants, mais c'est surtout 3 milliards de morts. Ils ont des trucs à nous dire, faut pas les oublier. Ils ont créé ce pays et ils ont fait cette langue qu'on parle et qui permet de nous renseigner sur nous-mêmes. Alors allons nous renseigner sur eux à notre tour.
Qu'est-ce que vous prenez le matin?
J'avais pas qu'il y avait du whisky à la cafette, moi.
Alors, en fait, la langue française, vous dites, c'est une partousse de mots, une salade niçoise d'expressions, un gloubi-boulga d'influences diverses. Alors, il y a la langue de voix, quand elle est pratiquée par les élites. Elle peut être de vipère quand elle est pratiquée par Jérémy Lorca. Elle peut être de bœuf quand c'est Jean-Philippe qui cuisine. Et elle n'est pas figée, en fait, la langue. Elle évolue sans cesse, elle se cabre, elle se rebelle, elle se tord. En fait, on dirait l'aiguille de ma balance ce matin.
Oui, je pense que la langue n'est pas figée. Elle est dynamique, elle est en mouvement. De temps en temps, ça fait peur, surtout en ce moment où on a la sensation qu'il y a un appauvrissement général. C'est vrai que les jeunes parlent avec moins de mots, hein. Ils s'expriment avec entre 300 et 600 mots. Rassurons-nous, ils en comprennent beaucoup plus. Mais ce
nous avons des jeunes d'ailleurs dans la salle qui ont.
Non, mais nous tous, d'ailleurs, après, c'est assez homogène et ça se répand. On parle avec moins de mots parce qu'on est dans une époque du tout de suite. Il faut aller vite, c'est l'immédiateté. Donc, il faut des mots punchline, il faut des mots courts, il faut des mots brefs, il faut des mots qui résument un petit peu tout.
Vous dédiez ce livre à Jamel Debbouze parce que vous dites que. Il vous a appris à découvrir la langue, Jamel Debbouze?
Ouais, pour moi, quelqu'un comme Jamel, qui est un poète, qui a transformé une lacune en qualité, qui maîtrisait forcément, je pense, assez mal la langue, et ben aujourd'hui, il est dans le dictionnaire. Parce que comme il la maîtrisait mal, et ben il l'a pris par les cornes, et puis elle réclame ça, elle revendique ça, elle est pragmatique, c'est l'usage qui prévaut. Et pour être compris, Jamel, il n'a pas hésité à la tordre et à inventer des mots nouveaux, des néologismes, qui, comme il a une sensibilité incroyable et qu'il est poète et qu'il est génial, et bien ça fait que ces mots-là, aujourd'hui, tout le monde les emploie. Ces expressions comme passer du coq à light par exemple, eh bien ça fera partie du dictionnaire et c'est tant mieux, c'est comme ça que la langue française avance depuis toujours.
Donc vous n'êtes pas comme ces puristes qui disent mon Dieu, dès qu'on qu'il y a des fautes d'orthographe, vous dites que justement c'est ça qui fait évoluer la langue et qu'elle a toujours évolué comme ça, la langue française.
Alors je dis qu'il faut des puristes. Parce que évidemment, on a besoin de figer, on a besoin de codes, on a besoin de règles pour pouvoir se comprendre les uns et l'autre et les autres. Sinon, ça devient une cacophonie ambiante. Mais la langue a besoin aussi de novateurs, voilà, de gens qui vont aller dans l'audace, peut-être même dans l'outrage, parce que la langue, elle est un peu comme un accordéon, vous savez, cet instrument qui nous symbolise aussi très bien, je trouve. De temps en temps, elle est en expansion, donc elle va s'enrichir de mots nouveaux, de plein de découvertes, etc. Et de temps en temps, elle va être en contraction, où elle va essayer de récupérer un peu tout ce qu'on a inventé pour fixer des règles et une syntaxe, parce que pour qu'une langue soit intelligible, il faut qu'elle soit objet de savoir, elle soit objectivée et qu'elle devienne figée, parce que sinon elle disparaît. Ça a été le cas du gaulois. Sinon, on parlerait. Si le gaulois avait été fixé par des règles, eh ben, il aurait perduré. C'est parce qu'il n'a pas eu de règles qu'il a disparu. Donc il faut la fixer. Donc les académiciens et les puristes sont nécessaires aussi. Ça oscille entre les deux. Le jongleur et le clerc. L'universitaire et l'inventeur.
Calmez-vous. C'est toujours comme ça, une boule d'énergie, Laurent Deutsch?
Ben disons que j'ai envie de parler des choses qui me captivent et qui me passionnent. Et c'est vrai que je suis très, très fier de ce livre et d'avoir fait ce voyage aux sources et aux origines de la langue française, parce que c'est le meilleur moyen de se comprendre et de parler de ce terme qui, malheureusement, aujourd'hui, est devenu synonyme et un mot courtois et moderne pour parler de racisme, qui est l'identité. Je trouve que l'identité, elle n'est pas du tout clivante. L'identité, au contraire, elle peut être rassembleuse. On a une identité française. Cette identité, c'est notre géographie et notre langue. La langue qu'on parle, qui nous appartient, qu'on a en héritage, donc qui est le fruit d'un grand voyage, d'un métissage, de toute une aventure qui est l'histoire de France. Et c'est passionnant. Donc oui, je suis là avec passion pour défendre cette identité française qui est généreuse. N'ayons pas peur du mot identité. Regardez, c'est formidable, c'est ouvert, c'est gourmand, c'est tourné vers l'autre.
Laurent Deutsch, finalement, votre carrière de comédien a quand même super bien démarré, parce que votre premier casting, série canadienne Les Intrépides, vous êtes engagé tout de suite, vous n'aviez rien fait.
Ah, j'avais rien fait, ouais. Mais c'est vrai que j'ai été pris à mon premier casting.
Parce que vous faisiez plus jeune que votre âge.
Parce que je faisais plus jeune que mon âge. J'allais sur mes 15 ans, 16 ans, et il fallait que je fasse 11-12 ans. Donc vis-à-vis de la DAS et de l'administration et de la loi,
c'était
on
pratique.
Peut faire travailler plus longtemps un enfant de 15-16 ans qu'un enfant de 11-12 ans. Donc ça a été un avantage certain. Ouais, grâce au fait que je faisais plus jeune, j'ai plus être choisi par rapport à d'autres gamins.
Et là, vous avez quel âge, Laurent Deutsch? Vous avez quel âge maintenant?
85.
43.
C'est vrai que vous faites moins.
département de la,
il
Loire.
Il fait 39.
La Haute-Loire.
Non, mais c'est oui. Ça qui est génial. C'est qu'à mon avis, on a dû vous charrier vachement sur le fait que vous soyez plus jeune. Et finalement, c'est devenu un atout pour travailler. Ça a été super.
Oui, oui.
Ça s'est transformé, quoi.
Ça, c'est, j'ai surcompensé, comme dirait le psychanalyste Adler. Hein, j'ai fait de la surcompensation favorable. Et ouais, j'ai développé ce qui a été un défaut et qui a été préjudiciable au départ, notamment quand je voulais faire footballeur, est devenu un vrai avantage. Ouais.
À 20 ans, vous reprenez des études, un double cursus philosophie, langue et civilisation hongroise. Vous parlez hongrois alors?
Artigen, beselekte, keletishmajorul.
Vous parlez hongrois avec vos parents?
Avec mon père un peu, ouais, avec mon père. Mais mon père, il est pas trop hongarophile, et c'est surtout dans les gros mots, les grossièretés. Donc en fait, quand j'étais petit, je tendais l'oreille quand j'entendais mon père parler hongrois, je me suis dit, oh, c'est en train de barder là, ça chauffe.
Et c'est comment les gros mots en hongrois?
Ah, karom kodash, menyo kurva pichaba.
C'est
l'eau force en chèque, mais des forces en kivon, télévan en toque. Oh là là,
j'en ai balancé vraiment. Aïe
aïe aïe, ouais, kurva niad.
Mais je comprends rien de ce que vous dites.
Borsa meg. Non mais kurva, c'est la langue, c'est le mot international de l'Europe de l'Est. Hein. C'est putain en fait.
Kurva.
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 Si ça se dit dans tous les pays de l'Est, ça.
Ah oui.
Ouais, kurva.
Si on est.
En Pologne, en République tchèque.
C'est pas un truc très bien à dire pour sympathiser.
Non, mais c'est, bizarrement, c'est souvent par quoi on commence. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça reflète aussi une histoire. Par exemple, au Québec, la plupart des gros mots sont tournés sur la religion.
Oui, tabarnak.
Tabarnak, ciboire, Saint-Sacrement, Carlis, enfin bref. Et alors qu'en en Hongrie, particulièrement, c'est très sexuel, quoi. Il y a peu d'insultes qui ont des références religieuses. C'est vraiment le sexe.
Eh ben, ça donne envie d'y aller, hein.
Ah ben, c'est des pros, hein. À Budapest, il y a quelques professionnels hein, de la chose.
Alors, dans votre livre, La folle aventure de la langue française, on découvre l'origine de certaines expressions. Par exemple, d'où vient le doigt d'honneur, Laurent Deutsch?
Le doigt d'honneur qui vient autrefois, c'était le doigt impudique. Et c'est vrai que je l'ai situé pendant la guerre de Cent Ans, avec ces fameux archers anglais hein, qui ont été responsables des grandes défaites de la chevalerie française, qui se battaient encore comme des balours en y allant en première ligne alors que les Anglais étaient planqués derrière des boucliers et puis balançaient des flèches à distance. Donc ça a totalement entraîné des défaites déséquilibrées pour l'armée française. Et donc les Français ont commencé à chercher les archers quoi, pour les tuer ou en tout cas les rendre comment, incompétents pour bander leur arc et tirer leurs flèches. Et donc du coup, quand les archers se planquaient dans des châteaux, etc., ils montraient leurs doigts. Soit ils faisaient lever de la victoire, puisque c'était avec l'index et le majeur qu'on bandait la corde de l'arc, soit ils tendaient le majeur pour signifier qu'ils avaient encore toute leur capacité de nuisance, et donc ça a donné cette espèce de doigt d'honneur. Mais on sait que dès l'Antiquité, on utilisait, notamment Aristophane chez les Grecs, en parle comme du doigt impudique, qui était une manière d'insulter quelqu'un en levant le doigt. Donc c'est quelque chose qui date pas d'hier.
Et dans votre livre, vous donnez l'origine de plusieurs mots. Par exemple, bistrot, c'est un mot d'origine russe.
Oui, qui était bistre, qui veut dire vite, vite. C'était une expression qu'on a attribuée aux Cosaques quand ils ont envahi Paris pendant la campagne de France sous Napoléon. Donc, ils étaient aux portes de Paris et entre deux combats, ils allaient boire un coup. Donc, ils allaient dans les estaminets, dans les bistroquets. Et ils disaient bistre, vite, 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 servez-nous parce qu'après, on doit encore aller tuer quelques crânes.
On a l'impression, Laurent Deutsch, que du coup, depuis que vous avez ce succès énorme, les métronomes et tout, vous faites moins de cinéma. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis en plus, je me passionne vraiment pour cette géographie qui m'entoure. Et donc, je pars à la recherche d'histoire avec ce média-là, avec ce support-là. Ce qui fait que je délaisse.
Vous êtes fou, vous avez 700 livres sur Paris. Vous lisez tout le temps
dans
un livre.
J'adore ça. Mais en plus, mon quotidien, ma réalité, vous savez, quand on aime l'histoire, certains vous disent, ah bah oui, ça veut dire que vous préférez le passé, vous vous réfugiez dans ce qui était avant, vous aimez pas la réalité d'aujourd'hui. C'est tout le contraire. C'est parce qu'on est interpellé, curieux de notre présent, amoureux de notre présent, qu'on va en chercher ses racines. Et ses racines, c'est son histoire. En ce moment, je me suis mis sur les réseaux sociaux où je développe une chronique qui s'appelle « À toute berzingue », où je vous raconte l'histoire d'une ville en 5 minutes, tout en courant, livrée chez vous, plus vite que la redoute. Parce qu'il faut aller vite sur les réseaux sociaux. Et ça me passionne.
Ça, c'est sur YouTube.
C'est sur, sur mon compte Facebook et Instagram que mon frère a créé pour l'occasion. Et qui s'appelle, allez, sur Laurent Deutsch officiel, hein, n'hésitez pas, vous allez voir, c'est passionnant. Et voilà pourquoi je tourne moins, je travaille moins, parce que je suis sur mes propres projets qui me passionnent.
Parfois, vous refusez des films pour faire vos projets d'histoire?
Disons que la plupart des films, en plus, se tournent l'été. Et l'été, je le consacre aussi un peu à mes enfants. Quoi. Mon plus beau rôle, c'est celui d'être papa. Donc, j'ai envie de les voir grandir. Je ne veux pas passer à côté. Et c'est vrai que c'est une fierté de ne pas passer à côté et de les avoir vus pousser.
Et votre femme, ça la saoule pas trop, toute l'histoire, tout ça?
Bah,
elle
m'a mis plusieurs avertissements, là, mais... non, ça va, elle est contente.
Quoi comme avertissement?
Non, mais elle est... elle regarde l'histoire un peu avec mes yeux et elle est aussi mon premier public et je me rends compte que j'arrive à la captiver. Je sens qu'elle a un regard un peu plus pétillant et quand on va dans une ville, elle me dit tout de suite, ah bah ça y est, tu vas encore tourner un truc pour ta chronique. Et je fais non pas du tout, on y va pour les crêpes, il y a une spécialité. Attends, les crêpes dans le Jura, c'est quand même hyper connu. Attends, la choucroute au Pays Basque, faut pas rater ça. Alors allez-y, mangez vos choucroutes, moi je vais tourner un petit truc.
Ah oui, donc
ouais, je fais des voyages utiles un peu.
Ah, mais vous l'amenez des fois au bord de la mer pour rien faire, ouais.
Ah bah oui, on a sur ma chronique à toute berzingue, on était à La Rochelle.
À La Rochelle, non mais je parle au soleil.
Oh bah, il fait très beau à La Rochelle.
J'ai pas dit qu'il faisait pas beau, mais
non mais
je veux
sans
dire...
chronique, sans faire de chronique, vous l'amenez dans des endroits un peu romantiques.
Un petit Marmara, Djerba, voilà.
Il y a des trucs, mais il y a des trucs à dire sur Marmara, sur la mer Marmara. Non, on arrive à trouver du moment pour partir en vacances.
Des fois, est-ce que parfois,
excusez-moi, mais cette curiosité qui m'amène à me poser des questions surtout m'emmène en vacances, quoi. C'est le plus beau des voyages. Je vis dans une réalité augmentée, quoi. Vous allez chercher le pain et les métros, ou vous allez au travail, etc. Mais vous avez la possibilité, si vous le désirez, si vous éduquez un tout petit peu le regard, de partir à l'aventure. Vous avez rendez-vous avec l'histoire partout où vous habitez. C'est gratuit, c'est immédiat. Alors amusez-vous à chercher ce qui se cache, posez-vous la question. Et en plus, c'est le meilleur moyen pour ne pas mourir. Voilà le secret de la meilleure des cures de jouvence, c'est de continuer à regarder le monde avec des yeux d'enfant. Avec vous poser des questions. Vous savez, moi j'ai fait de la philo, et en philo, le prof nous disait... Lutter contre les points finaux, contre les points terminaux. Posez-vous des questions. Le point d'interrogation, c'est le doute socratique. Vous savez, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est le doute cartésien. C'est le fait de se dire que le point d'interrogation, se poser la question, rester stupéfié, rester émerveillé, ça élève. Le point final rabaisse. Les certitudes, c'est qu'on va mourir. Donc luttons contre la mort, posons-nous des questions. Restons dans le doute et l'hypothèse.
Bravo. Eh ben. Vous auriez pensé comme ça que vos livres auraient du succès, Laurent Deutsch, ça a été une surprise, le succès de Métronome, parce que 2 millions d'exemplaires.
Oui, oui, total. Une surprise totale et un émerveillement et un rêve éveillé dans lequel je suis toujours et qui en plus a un peu, c'est vrai, changé ma vie puisque c'est devenu le principal axe et moteur de mes journées, à savoir de quoi je vais pouvoir parler, quelles recherches je vais entreprendre, quels voyages je vais faire. C'est, ouais, ça m'a donné des ailes. Ouais.
Et alors quand vous étiez petit, Laurent Deutsch, vous aimiez beaucoup Albator?
Oui. Ah bah oui, c'était un héros.
Vous connaissez encore le générique ?
Albator, Albator, le capitaine corsaire, tu règnes sur la galaxie. Et après, j'ai un peu oublié la fin. Carmen, Nausicaa sont avec toi.
On a l'impression que vous êtes resté encore un petit garçon.
Mais bien, mais c'est ce que je viens de vous dire.
Ne vous énervez pas.
Je suis en train de vous expliquer que je pense que la meilleure des cures de jouvence, c'est que le meilleur moyen d'affronter la vie et de lutter contre sa finitude terrible et absurde, qui est la mort, qui nous attend tous, eh bien, c'est de vivre encore et essayer de garder des yeux d'enfant. Regarder le monde avec des yeux d'enfant.
Je vous présente quelqu'un qui a une voix d'enfant, c'est Christine Béroux. Ah oui. Elle a des questions à vous poser.
Oui, parce qu'en fait, je voulais écrire un poème sur votre parcours, mais il me manquait des rimes. Je voulais donc vous proposer de les trouver à ma place. Mettez-moi une petite ambiance un peu lyrique, poétique. Voilà. Laurent Deutsch a des ancêtres nés en Hongrie. Un point commun qu'il a avec des gens qui dansent le Sartaki, Nicolas Sarkozy, le créateur de Microsoft Word, Charles Simonyi.
Nicolas Sarkozy?
Oui. Aussi, ça marchait avec le créateur de Microsoft, mais ça marchait. Il y avait trop de pieds, mais bon. C'est technique, excusez-moi. Lorsqu'il est adolescent, Laurent Deutsch a des ambitions folles. En effet, il rêve de devenir un gérant de music-hall, une star du football ou carrément Stéphane Le Foll. Alors ?
Une star du football.
Bah voilà. On est une équipe, là, sur ce coup-là.
Non, je suis avec toi, je suis avec toi.
Alors, c'est maintenant qu'il faut parler.
Oui.
D'accord ? Alors, il se dirige finalement vers de grandes études. Le projet qu'il esquisse, c'est de travailler dans la police, légaliser le cannabis ou battre le record du lancer de petit suisse.
Travailler dans la police ?
Eh oui, vous parlez vachement bien de vous. Finalement, il devient comédien et il est toujours au top, même quand il fait des horoscopes, de la pub pour Yop, des concerts de country dans des sex shops.
De la pub pour Yop ?
Oui, vous pouvez nous la refaire, la pub pour Yop ?
Tu sais que t'es pas mal comme fille finalement, t'es pas canon, mais t'es pas mal. Moi je suis d'accord pour être ton mec, ça te ferait du bien d'avoir un mec. Et ça va pas arriver tous les jours, un mec comme moi qui se penche sur ton désert affectif. Quelqu'un qui m'a parlé là ? Oui, je voulais savoir, est-ce que t'as envie de te faire un Yop avec moi ? Un Yop ? Voilà.
Ah mais c'est cool.
On vous en parle tout le temps de cette pub encore.
Ouais. Bah oui, c'était en plus c'était une pub qui avait été tournée par Bertrand Blier, qui est quand même un très grand réalisateur, et puis elle a été beaucoup diffusée. Et c'est vrai qu'elle m'a en plus permis d'être encore plus un peu plus connu et de travailler plus.
Alors après la comédie, sa spécialité devient les films historiques. Il est si beau qu'à le voir, on voudrait tous qu'il nous emmène en Afrique, parle de la philosophie stoïque, apprenne la mosaïque.
M'emmène en Afrique.
Oh, c'est romantique.
Oh la grosse.
Voilà de retour avec un ouvrage sur la langue française vraiment cool, qu'il faudra offrir à Noël à toute une foule, au rappeur Jules, à toute une foule dont le rappeur Jules.
À toute une foule dont le rappeur Jules.
Oui, vous avez déjà lu les tweets de Jules?
Non.
Mais je le fais pas, parce que vous aurez un AVC. Donc voilà. Laurent Deutsch est un artiste et un philosophe. Pas étonnant qu'il soit fan des frères Bogdanov, de l'émission Apostrophe ou des chroniqueurs d'Anne Roumanoff.
Les chroniqueurs d'Anne Roumanoff.
Laurent Deutsch, c'est vrai que vous avez rêvé d'être policier, vous avez raté les examens de la police?
Ouais, j'ai raté les examens de la police.
Plusieurs fois?
Je voulais être à Interpol, en fait, je voulais être en Europe centrale, je voulais travailler en Hongrie, à un moment où je voulais vivre en Hongrie. Et je les ai passés une fois, et ensuite j'ai tourné un film avec mon meilleur ami, mon plus vieil ami dans le métier, qui est Jamel Bensalah, qui m'a dit « Mais arrête tes études, là, arrête de faire policier, etc. On va faire cinéma tous les deux, viens dans le manège avec moi, j'ai des rôles pour toi, et ça va être ta vie, quoi. Tu vas pas partir en Hongrie. » Et je suis resté grâce à lui, ouais.
C'était Le ciel, les oiseaux et ta mère, c'est ça?
C'était après, c'était un film qui s'appelait Le Raid. C'était le deuxième film qu'on a fait ensemble, et c'est le film après qui m'a fait que j'en ai enchaîné quelques-uns, et que je suis resté. Mais c'est vrai que je voulais être dans la police. Je voulais faire des enquêtes. Je voulais partir à la recherche d'énigmes, de traces, etc. Et l'avantage maintenant avec mon métier de passionné d'histoire, c'est que ces enquêtes ne me mènent à aucun crime, ou alors c'est des crimes bien datés, les os sont bien blanchis, et c'est plus du tout ni clivant, ni objet de souffrance. Moi, j'aime l'histoire pour le côté divertissant, passionnant et rassembleur. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de mal avec l'histoire contemporaine, parce que souvent, elle est instrument politique, ou en tout cas, instrument où il y a encore des bourreaux, des victimes, et là, c'est plus drôle. Là, on rigole plus. Donc forcément, je m'en détourne un petit peu, parce que pour moi le but d'une histoire et d'aimer l'histoire, c'est d'agrémenter et d'améliorer ma journée.
Vous avez un historien d'ailleurs qui vous aide dans vos recherches?
Ah oui, j'ai un ami universitaire qui s'appelle Emmanuel Eman, qui vérifie tout ce que je peux dire, qui corrige les sources et qui calme mon enthousiasme peut-être par moments déchaîné et débridé.
Parce que parfois vous avez été attaqué par des historiens, jaloux de votre succès aussi, parce que quand des gens passent 15 ans à faire des études universitaires très poussées et qui vous voient, vous qui êtes finalement quand même un autodidacte de l'histoire, arriver à faire un succès, il y a une jalousie aussi compréhensible d'ailleurs.
Bien sûr, je la comprends, mais je leur ai dit, et je leur dis quand j'ai l'occasion d'en voir, des universitaires, etc. Moi, mon but, c'est de faire parler d'histoire. Moi, je suis un digicode, je suis un porte-voix. Si on peut, grâce à moi, grâce à mon travail, très modestement, lire de plus en plus d'ouvrages d'histoire et augmenter les rayonnages dans les grands magasins et sur Amazon et sur les sites, etc., tant mieux, j'ai gagné mon pari. Pour moi, je pense que aimer l'histoire, ça doit être un travail collectif, additionnel, et certainement pas un combat dans lequel certains veulent me faire tomber, etc., et qui m'intéresse pas, parce que, comme je l'ai dit il y a 3 minutes, moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est qu'elle est rassembleuse et que c'est passionnant et divertissant. Dès que ça devient objet de contestation, de combat, comme le revendiquent certains historiens, l'histoire est un combat, vous le lisez sur beaucoup de sites d'historiens, ben là, ces sites-là, je ne les consulte pas. Pour moi, l'histoire n'est pas un combat. L'histoire, c'est un partage, c'est une passion et c'est une aventure.
Nous recevons une actrice, une animatrice, une chanteuse, une meneuse de revue, celle qui a contribué à l'éducation sexuelle de plusieurs générations de jeunes garçons, celle qui a su se faire un nom alors qu'elle avait commencé sous X, celle qui est responsable non pas du réchauffement climatique, mais de la hausse soudaine de la température dans nos studios d'Europe 1, la française la plus sexy selon le magazine FHM et selon tous mes chroniqueurs, ce midi, notre invitée, mademoiselle Clara Morgan.
Bonjour.
Alors là, je ne sais pas, je vois pas pourquoi tout le monde est dans cet état. Moi, bon, personnellement, je ne connais pas cette personne, mais je constate.
Ils sont tous comme des dingues, Clara.
Très bien, bah écoutez.
On était tellement contents de recevoir Gilles Alma.
Surtout vous.
Oui.
Bonjour Clara Morgan.
Bonjour, merci de m'accueillir. Déshabillez-moi.
Oh là là.
Non mais je dois vous avouer, Clara Morgan, que lorsque j'ai annoncé que vous étiez mon invitée ce matin, certains de mes chroniqueurs ont proposé de payer pour être là.
D'accord.
C'est bizarre, hein, parce que quand on a reçu Gaspard Ganzer ou Benjamin Griveaux, ça se bousculait moins au portillon.
Là, je voulais qu'on me rembourse, en fait.
Clara Morgan, je dois vous avouer que ce matin, je n'ai aucun a priori en ce qui vous concerne, car je n'ai jamais eu l'occasion de regarder votre ancien travail. Hein, les films pour adultes, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, les films pour enfants non plus, j'ai toujours rien compris à La Reine des Neiges. Puis je trouve que les films X, c'est comme les émissions de cuisine à la télé. Quand on veut refaire les recettes chez soi, ça rend pas pareil. Clara Morgan, vous n'avez exercé cette activité que pendant un peu plus d'un an.
C'est ça.
Et ensuite, vous avez pris votre retraite, un peu comme un ministre de Macron. Alors, Clara Morgan, on a le plaisir de vous recevoir ce midi à l'occasion d'une double actualité. D'abord, votre calendrier annuel, celui de 2019, qui s'appelle cette année Hardcore.
Ouais.
un calendrier qui met en valeur le corps féminin.
Et l'art du corps.
L'art du corps avec sensualité et glamour. Et pour votre spectacle, le cabaret de Clara Morgan, que vous jouez au cabaret au César à Paris dans le 15e, ainsi qu'en tournée dans toute la France.
Oui, chez Barrière également. C'est une aventure qui a commencé il y a 2 ans. Ça a été d'abord des rencontres avec des artistes qui m'ont vraiment bouleversée, comme l'humoriste magicien mentaliste Monsieur Marvelous, qui est aujourd'hui mon binôme, ou la championne de France de pole dance. C'est une discipline qu'on connaît malheureusement trop mal. On a l'impression que c'est une fille qui s'accroche simplement en ondulant sur une barre de striptease, et en réalité c'est une vraie discipline sportive. Elle vient de conquérir 7 semaines pour les championnats du monde Coralie Père, et elle a terminé 12e. On est vraiment très fiers de l'avoir avec nous. On a aussi une effeuilleuse burlesque qui s'appelle Cléa de Velours, qui est dans la veine de Dita Von Teese, et une chanteuse à voix qui chante un peu comme Maria Carré à la bonne époque, qui s'appelle Audrey Acoun. On a des musiciens également sur scène, pianistes, contrebassistes.
C'est un cabaret, vous êtes meneuse voilà. de revue, Clara Morgan.
Exactement, j'ai 2 tableaux chantés, dont ma chanson I'm So Excited, qui est une version jazz des Pointer Sisters, parce que eux, c'était un peu en accéléré, et nous, on a ralenti pour rendre les choses plus glamour. Et j'ai aussi une chanson, je reprends, Travesti de Starmania. Et donc j'arrive à habiller en homme, etc. Et c'est un terrain de jeu incroyable de pouvoir à la fois produire, écrire et jouer sur scène. Et ça a commencé simplement entre amis. C'est une aventure qui n'a fait que grandir avec, par exemple, des contrats comme la tournée Barrière, qui nous fait faire des salles jusqu'à 1200 personnes. Personnellement, j'en reviens toujours pas, et c'est un réel bonheur surtout d'être parmi ces artistes-là.
Et la bonne nouvelle, c'est surtout d'apprendre que le pole dance, c'est un sport, ouais, ce qui fait de nous des amateurs sportifs. Et ça, c'est la bonne nouvelle.
Alors, Clara Morgan, vous êtes originaire de Marseille, la ville du soleil, du sang chaud. Est-ce que votre ville d'origine a joué un rôle pour votre attirance pour la sensualité, les vêtements avec très peu de tissu ?
En tout cas, ça m'a donné l'envie de partir. j'avais vraiment très envie de monter à la capitale, comme je disais quand j'avais 17-18 ans. Et c'était un rêve de venir à Paris, de pouvoir y faire plein de choses. J'ai eu une opportunité, ça a été un peu un choix extrême, on va dire, mais c'était aussi une façon de m'extraire de ma simple condition. Alors, on n'était pas pauvre, je suis une fille de coiffeur, j'étais heureuse, mais c'est vrai que je rêvais de strass de paillettes, et j'aurais jamais pu croire que ce chemin que j'ai parcouru serait le mien sous une seule opportunité. Et c'est vrai que je n'étais pas pudique. J'ai commencé donc à l'âge de 19 ans avec mon petit ami. Et c'est vrai que ça a été une opportunité, un espèce de truc fun, une adolescence.
Vous avez fait seulement 6 films X, ouais, que vous exactement. Avez tourné avec votre petite amie. De nos jours, 6 films dans le porno, c'est pas une carrière, c'est un stage.
Oui, c'est ça.
C'est une journée de travail.
C'est vrai que comme j'ai eu l'opportunité et la chance de faire plein de choses dans ma vie, présenter des émissions télé, sortir des albums, et que j'ai présenté le journal du Hard pendant 7 ans, qui représente 2,5 millions de téléspectateurs quand même. Donc c'est vrai que j'ai une notoriété qui a grandi. Et donc les gens associent ma notoriété à ma carrière. Ils se disent, si elle est très connue, c'est qu'elle a dû faire beaucoup de films. Mmh. Et en réalité, non. Ma notoriété, je l'ai faite sur le journal du Hard. Et j'ai appris le métier de présentatrice à cette occasion.
Vous expliquez, Clara Morgan, avoir accepté de rejoindre ce milieu afin de vous retrouver pour échapper à votre éducation par trop rigoriste. Je veux dire, si tous les gens qui avaient une éducation rigoriste tournaient dans du porno, c'est facile.
Il y aurait énormément de porno.
Oui, mais en même temps, il n'y a pas que des gens qui sont prêts à tout sacrifier pour se trouver eux-mêmes. Moi, je suis une forme extrême, quoi.
À propos de cette courte filmographie, que c'était une crise d'adolescence sur le tard.
Oui, exactement. J'ai vécu comme ça. Ben, j'avais 19 ans. À 19 ans, on réfléchit pas trop.
Normalement, une crise d'adolescence, on fait le mur, on fume un peu de drogue, on dit à ses parents que c'est des cons. Pourquoi c'est
Moi, j'ai pas fait tout ça.
Vous dites que vos parents étaient très stricts avec vous, qui vous empêchaient de vous maquiller, de sortir.
Ah oui, j'avais pas le droit.
Mais là,
c'était dur. Ouais. La transition a été.
Ah bah, j'imagine.
Ah, le choc.
Ouais. J'avoue que j'ai pas été très cool avec eux à cette période, mais je n'avais qu'une seule envie, c'était partir, fuir, grandir, me trouver, devenir quelqu'un. Ça brûlait vraiment très fort. C'était franchement pas pour l'amour du sexe, même si je suis désolée que ça peut décevoir, mais c'était vraiment pour m'émanciper.
Et vos parents, maintenant, les relations se sont apaisées ?
Ah oui, c'est ma maman. Et d'ailleurs, j'ai habité pendant 17 ans à Paris. Mmh. Et quand j'ai eu ma fille, il y a 3 ans, en fait, j'ai décidé de retourner dans le sud. Alors, pas spécifiquement à Marseille, mais en tout cas proche d'eux pour qu'elle puisse grandir avec sa grand-mère, sa tante.
Elle a mis combien de temps ont mis vos parents à vous pardonner, Clara Morgan ?
Ma mère, ouais. Elle ne m'a jamais plus parlé. Elle a toujours dit « ça me fait extrêmement peur, mais j'ai l'impression que ma fille est obligée d'avoir ce parcours. » Et même si c'était très loin de sa réalité à elle, là, par exemple, le jour où elle a rencontré mon père, elle a fait la bise à mon père devant la fenêtre et mon grand-père les a vus et le mariage en a découlé en fait. Donc nous on vient d'un truc, si vous voulez, on est pieds noirs. Voilà, donc non, le choc a été grand, mais je pense que l'amour l'a vraiment guidée et qu'elle a mis plein de choses de côté pour essayer de me comprendre.
Et maintenant tout va bien.
Oui, tout va très bien, merci.
Et j'imagine. D'un côté, ça vous dérange qu'on parle encore de cette époque, parce que c'est des fois, on vous en parle de façon pas toujours très classe, alors que vous avez monté des entreprises, créé vos marques de lingerie, de vêtements, fait des spectacles.
Oui, mais en même temps, j'ai conscience que le parcours que j'ai choisi est un parcours vraiment atypique, différent, marquant. Et c'est aussi pour ça, grâce à ça, que j'ai pu évoluer, me trouver en tant que femme et monter ma boîte et produire. Et aujourd'hui, me retrouver sur scène devant parfois 1200 personnes qui viennent applaudir un cabaret. Les gens qui viennent voir mon spectacle ne savent absolument pas ce qu'ils viennent voir. Ils viennent voir Clara Morgan avec le mot cabaret associé. On dit qu'il y a des artistes qui vont... Mais ils ne savent pas, ils viennent sur un nom. Et moi, tout le principe que j'ai, ce que j'essaie de faire, c'est qu'ils sortent de là en se disant « on a passé une super soirée et on en est très étonnés ». Donc voilà, j'ai cette chance immense de pouvoir surprendre. Et quand on n'a pas vraiment de légitimité quelque part et qu'on s'en sort bien, je trouve que l'écart justement est d'autant plus grand. Donc c'est une chance que j'ai, j'en suis sûre.
Et puis, donc, ce spectacle, hein, c'est, en fait, vous êtes une meneuse de revue sexy et glamour, Clara Morgan, on peut dire ça ?
Bah, disons que dans le cabaret, c'est un peu le principe. Il y a beaucoup de strass, beaucoup de paillettes. Ouais. Je suis entourée de femmes magnifiques et incroyablement talentueuses. J'ai de très beaux costumes, notamment par les créatrices de lingerie, Maud et Marjorie, qui m'ont fait un costume sur mesure magnifique, qui évidemment se défait en fur et à mesure. Et puis, je change beaucoup de costumes. Oui, c'est un univers fantastique, le cabaret. Malheureusement, trop peu, y a trop peu de cabarets encore en France. Et je trouvais que c'était une façon géniale de faire revivre notamment les années 30, parce qu'on reparle tout le temps des années folles, il y a tout le temps des références. Mais c'était un spectacle qui est quand même vraiment ancré en 2018, avec notamment des disciplines comme l'humour ou le pole dance. C'est vraiment actuel, avec toujours la petite pensée au cabaret des années 30.
Vous trouvez que, parce que les ados consomment beaucoup de porno maintenant, sans aucune barrière,
je sais pas trop,
sur internet et tout ça, et ça vous choque ça maintenant?
Disons que c'est pas la meilleure façon de découvrir sa sexualité, et que je ferai tout pour que mon enfant y ait accès le plus tard possible, et surtout en lui donnant des clés avant pour qu'elle ait envie de faire plein de choses et de découvrir plein de choses, qu'elle ait des bases solides, c'est vrai, que je vais tout faire pour éviter ça, je vous le cache pas. Je trouve que il devrait y avoir, enfin il y a des interdictions bien sûr, mais c'est aux parents d'être vigilants, on compte sur eux, enfin il y a pas d'autres.
Les jeunes, si vous... il y a juste marqué est-ce que vous voulez entrer ou sortir, oui. Le gamin,
est-ce que vous avez plus de 18 ans?
Oui. Oh mince, je me suis fait avoir. Oh, je peux pas y aller.
Oui, parce que les dommage. Jeunes là, si vous voulez leur donner des clés pour consommer ça, ils veulent juste la clé Wi-Fi, ça suffira. Ah,
non, mais il y a le contrôle parental, c'est de ça dont je parlais, et on peut bloquer les ordinateurs et les parents, faut qu'ils y fassent.
Oui, moi je l'ai fait à la maison, du coup, moi je pouvais plus me connecter.
Ah, alors j'ai vu tant de trucs.
Un moment où cette image que vous, quand, dans votre vie sentimentale, ça a été compliqué, vous faisiez peur aux hommes, Clara Morgan, ou c'est le contraire en fait?
En fait, j'ai pas eu tellement l'occasion de.
Vous n'avez jamais été seule très longtemps en fait, c'est ça?
J'ai eu des relations longues. J'ai eu une relation de 5 ans, puis une relation de 6 ans. Ensuite, j'ai été seule pendant 2-3 ans.
Ah, j'ai raté le créneau.
Et je me suis concentrée, c'est vrai, sur mon travail. Et ensuite, j'ai rencontré l'homme de ma vie, mon mari, qui aujourd'hui est non seulement coproducteur du cabaret, mais en même temps chef d'orchestre de tout le cabaret. Ils font en sorte que ça marche, que ça existe, que ça tienne debout. Parce que moi, je fais que parler.
Votre mari est musicien et DJ.
Voilà, exactement. Il a une formation d'ingénieur du son. Il a vendu des millions d'albums aussi.
Oui, bon, ça va, ça va.
Non, mais c'est, en tant que producteur, il n'est pas connu. Il était réalisateur et producteur de musique, c'est un homme de l'ombre.
Ouais, ça note. Et donc
et donc c'est vrai que ce duo là, j'adore la complémentarité dans le couple, et j'ai toujours du mal à à comprendre. En tout cas, moi, je m'y vois pas dans un couple où les deux font complètement des choses différentes. Très différentes. Et en même temps, ça me semblait impossible de vivre au quotidien avec quelqu'un, de faire la même chose ensemble. Je me disais, il n'y a pas de discussion. Et en fait, maintenant, ça me semble impossible de faire autrement. Et bon, c'est mon mari pour la vie, quoi.
Mmh. Je vous présente Ben H, qui veut quand même tenter sa chance.
Ouais, c'est jamais... Ah, dans le doute. Ah, quand même. Clara Morgan, Clara Morgan, ah. Clara Morgan. Oh mon Dieu, je parle vraiment à Clara Morgan. Chroniquer Clara Morgan et puis mourir, disait jadis Victor Hugo. Si, si, il a dit ça. Eh bien, après ce midi, je vais pouvoir désormais mourir tranquille. Oui, ne faites pas attention à ce bruit de fond, Clara, c'est juste mon cœur d'homme fragile qui s'emballe. D'aussi loin que je me souvienne et depuis la première fois que je vous ai vu, j'ai attendu ce moment-là, Clara. Mon Dieu, la première fois que je vous ai vu, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais ce jeune adolescent prépubère qui découvrait son corps et le meilleur de l'Internet. Allez, ne faites pas attention à ce bruit de fond, Clara, c'est juste mon slip d'adolescent qui s'emballe. Je savais qu'il allait arriver ce moment, Clara, qu'un jour vous seriez face à moi et ce jour-là, il fallait que je sois prêt. Alors, semaine après semaine, chronique après chronique, depuis de nombreux mois, je me suis préparé, entraîné sans relâche, tentant de séduire absolument tous nos invités, les femmes, les hommes et même Amélie Nothomb. J'ai fait les chanteuses, les actrices, mais jamais, au grand jamais, je n'ai chroniqué un fantasme. Ce midi, je suis prêt, Clara, prêt à vous prouver que nous sommes absolument faits l'un pour l'autre, quoi que vous en disiez. Vous allez me dire, Clara Morgan, que j'en fais beaucoup trop, mais non, non, sachez au contraire que depuis votre entrée dans le studio, jamais je n'ai été autant mesurée dans ma vie. Pour tout vous dire, Clara, je n'ai que deux passions dans la vie, les calendriers et vous. Autant vous dire que chaque nouvelle année, mais c'est systématiquement... Voilà, et puis... Et puis sachez que je suis toujours, mais vraiment toujours d'accord avec vous, quelles que soient vos déclarations. Par exemple, vous disiez à propos de la chirurgie esthétique, hein, vous dites « Je n'ai pas une grosse poitrine, mes petits seins me vont très bien, mais je suis parfaitement d'accord, Clara !»
Je dis pas ça spontanément, on me pose la question.
Non, mais oui, mais moi je vous le dis spontanément en tout cas. Sur le même sujet, vous déclarez « J'ai un peu de mal avec cette idée d'avoir un élément étranger dans mon corps, mais je suis également d'accord, Clara, n'en déplaise à Jérémy Lorca. Oh » Vous dites également que pour votre prochain calendrier, votre rêve c'est de poser avec Scarlett Johansson. Et ben, je vous l'assure, comme par hasard, c'est mon rêve. Rêve aussi, quoi, de vous voir poser toutes les deux. Et enfin, vous dites aussi que vous êtes mariée, heureuse en amour et qui plus est, une mère épanouie. Je rêvais de rencontrer une œuvre d'art vivante ce midi et je découvre aussi une jeune femme d'affaires mariée et maman. Une jeune femme qui rêvait d'une vie extraordinaire, usant depuis 15 ans aussi bien de son corps que de sa tête, aussi remplie que bien faite pour réaliser ce rêve. Une femme libre et accomplie qui met les hommes à ses pieds, et vous l'avez compris, c'est mon cas, Clara, littéralement. À défaut de devenir votre mari, je me contenterai même d'être votre vernis et je conclurai en vous citant Verlaine qui a écrit jadis « Le bonheur, c'est souvent juste un moment. Alors si un jour la vie se fâche, on n'est jamais trop prudent. Au cas où, prends quand même le numéro de Ben H. »
Ah, il est chaud, Ben H.
Alors, c'est la plus belle chronique qu'on ne m'ait jamais écrite. Merci infiniment.
Ça fait 30 ans que je suis dessus. Là.
Je ne l'oublierai jamais.
Pour la petite anecdote, hier, j'ai appelé Ben H pour dire que vous aviez annulé, que c'était Sébastien Chabal qui venait à la place.
J'ai pleuré, c'est vrai.
J'ai entendu un cri énorme. Je dis non, je rigole.
Oui, parce que si vous faites la même au masculin, il peut vous arriver des problèmes.
Bah, je vais rentrer chez moi difficilement, oui.
Jean-Philippe Busigny a des choses à vous dire, Clara Morgan.
Oui, beaucoup de choses.
Je ne sais pas si ce sera aussi poétique que Ben H. Si. J'ai très peur.
Alors, tout d'abord, Clara Morgan, pour préparer cette émission, j'ai dû faire un travail de recherche sur votre parcours professionnel, car je l'avoue, jusqu'ici, je ne vous connaissais pas du tout.
Ouais, mytho. Ouais.
Mytho. Chut, mytho. Arrêtez, c'est parce que ma femme écoute l'émission. Chérie, je te jure, je ne sais pas qui est cette dame. Alors, j'ai découvert que chaque année, vous faisiez un calendrier avec des photos, comment dire, il n'y a pas beaucoup de budget pour les costumes, hein.
Et pourtant, si.
Ah bon? Mais les photos sont très, très belles. Alors, j'ai demandé à ma femme si on pouvait l'acheter, le calendrier. Elle m'a répondu, bah, à quoi ça sert? On a déjà acheté celui des éboueurs. Chérie, oui, mais même si le calendrier des éboueurs, les photos sont nettement moins jolies que sur le vôtre. En revanche, les éboueurs, eux, ils avaient plus de budget pour les costumes. Hein.
Alors, je suis allé me promener un peu partout sur votre site, tout ça. J'ai vu que vous étiez une spécialiste des accessoires et des jouets pour adultes.
Spécialiste. Spécialiste, non, mais je me lance.
Oui, vous, en fait, vous en proposiez voilà, toute une série de trucs pour Noël. Alors, j'ai dit à ma femme, on vit qu'une fois, vas-y, allez, viens, on en commande et tout. On a commandé plein de choses, plein de trucs. Bah, c'est nous, ça n'a pas marché comme prévu. Par exemple, il y a la bougie spéciale massage.
Oui.
Oui, oui, oui. Ah, c'est en fait, c'est vous allumez la bougie, quand ça fond, et ben la bougie, elle se transforme en huile de massage. Alors, ben on s'est mis sur le tapis devant la cheminée, on a fait fondre la bougie, et quand elle est fondue, ma femme, elle a versé elle m'a tout versé sur le dos. C'est bouillant ce truc. Je me suis relevé d'un coup sec, bim, la bougie sur le tapis. Bon ben finalement, je l'ai bien eu le massage, mais c'était celui des pompiers pour me réanimer.
Ils ont un calendrier aussi.
On l'a acheté aussi. Et il y a plus de budget pour les costumes aussi. Alors, il y a aussi des produits aphrodisiaques pour les garçons. Des trucs, ça... L'autre soir, moi, je voulais épater...
À base de gingembre.
Oui.
Ah, c'est pareil, c'est pour faire remonter les sondages.
Voilà. D'accord. Alors, moi, l'autre soir, j'ai voulu épater ma femme. Je me suis dit, alors, je vais en prendre. J'en ai pris un peu plus que la dose prévue. Au bout d'un quart d'heure, j'ai le moteur qui a commencé à s'emballer. Ma femme rentre du boulot. Elle ouvre la porte et elle me dit, « Chérie, regarde qui est venu nous faire une surprise. Mes parents sont là pour le week-end. » Oh la galère! Oh! Oh! J'ai dû prendre 3 douches froides pour. Alors, c'était un de ces fantasmes. Ma femme m'a acheté un déguisement de plombier. Okay. Oui, alors mais j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Je l'ai mis, je suis sorti, j'ai sonné à la maison. Ding dong. Le temps que. Oui, je me suis entraîné. Le temps que ma femme vienne m'ouvrir, je suis tombé sur la voisine qui rentrait aussi. Bon, bah, elle m'a embauché pour que je leur fasse toute sa salle de bain, alors du coup. Alors, avec Clara Morgan, c'est bien de nous proposer toutes sortes de choses pour régler notre vie amoureuse. Mais moi, ce qu'il me faudrait en priorité, c'est déjà le mode d'emploi, vous voyez.
Merci Clara Morgan d'être passée nous voir.
Merci du fond du cœur.
Merci, hein.
Merci, vraiment.
Merci.
Merci.